Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En ces temps qui, qu'on le veuille ou non, commencent bien à ressembler à un tournant dans l'histoire, chacun cherche au moins secrètement à comprendre ce qui nous arrive, à lire dans les événements quelque chose qui a du sens, voire même ce que Dieu nous dit. Alors, pour nous y aider, je vous propose ce matin d'aller chercher dans les Écritures une figure peu banale, l'histoire d'un prophète qui fut lui aussi bien mal en point, jusqu'à se retrouver dans le ventre d'une baleine. J'ai nommé Jonas. Une histoire en forme de conte de fées, celle d'un homme qui ne voulait pas entendre ce que Dieu avait à lui dire, une histoire qui pourrait bien nous parler. Sortir du ventre de la baleine, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Un peu d'humour et il y en a dans le livre que l'on va parcourir. Pour nous accompagner, David Marc d'Amonville, vous êtes religieux bénédictin, ancien père abbé de l'abbaye d'Ancalca et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, Jonas, paru aux éditions du Cerf dans la collection Mon ABC de la Bible. Bonjour.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Merci de prendre du temps avec nous. Alors vous êtes par téléphone pour des raisons, on va dire, de santé, en plus peut-être des conditions sanitaires qui compliquent parfois les déplacements. Bien content de vous avoir ce matin pour évoquer cette figure peu banale, Jonas. Ma première question, tout simplement, en ces temps où on cherche à trouver du sens à ce qui nous arrive, faut-il se plonger dans les Écritures jusqu'à chercher cette toute petite histoire de ce prophète?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est une clé formidable pour la période que nous vivons. D'une part, parce qu'il n'y a pas d'image plus étroite du confinement que celle de Jonas dans sa baleine. Ça devait être le pire confinement qu'on puisse imaginer. Et puis surtout parce que Jonas, c'est le signe que le Seigneur Jésus prend, le seul signe qu'il consent à donner, le signe de Jonas. Alors c'est resté un peu en friche, cette histoire de signe de Jonas. On a 2-3 pistes qui nous sont données par l'Évangile, mais je crois qu'on peut creuser beaucoup plus et voir là vraiment une parabole du monde, une parabole du salut, une parabole de la vie chrétienne. Et c'est formidablement intéressant dans notre moment un peu tragique de ce qui se vit comme en termes d'absence de relations, de difficultés de relations et de difficultés de vivre. Alors c'est celle qui nous est proposée aujourd'hui.
C'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Quand vous parlez du signe de Jonas, c'est donc Jésus qui, en réponse à certains qui lui demandent un signe, donc dit « Vous n'aurez comme signe que le signe de Jonas », mais ça, on y reviendra. On va commencer par raconter l'histoire. Histoire, et vous le dites dans votre livre, qui a largement inspiré, tant la littérature que les arts, graphiques, picturaux, ou voire même la musique. On parlait ce matin de Moby Dick en teasing de l'émission, mais vous citez d'autres ouvrages, dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, semble-t-il, il en est fait mention. Vous citez une nouvelle d'Albert Camus qui s'appelle Jonas ou le travail de l'artiste, ou l'artiste au travail. Bref, si on commence par l'histoire tout simplement, parce que tout le monde n'est pas familier de la Bible, Jonas, c'est donc l'histoire d'un homme à qui Dieu s'adresse. On verra après pour l'aspect historique, là c'est simplement l'histoire, et qui fait presque immédiatement demi-tour et qui part en mer. Racontez-nous à gros traits cette histoire, David Marc.
Alors, l'histoire est très rapide, ça c'est à peine un chapitre de l'Évangile, donc c'est un récit très court dans la Bible, une des raisons d'y revenir. Et c'est 4 tableaux qui se succèdent. Le premier tableau, c'est donc ce que vous venez de dire. Jonas est appelé par le Seigneur à aller prêcher à Ninive, et il fait demi-tour aussitôt, il s'en va à Tarsis, c'est-à-dire à l'opposé, en Espagne, et c'est la tempête au cœur de la mer. Ça, c'est la première histoire. Voilà, il prend un bateau, et malheureusement, une tempête survient, et ça va si mal que finalement Jonas va être jeté à la mer comme dans l'histoire des contes d'enfants où on tire à la courte paille et puis voilà, ça tombe sur Jonas et pour exaucer la volonté de ce Dieu qui a envoyé la tempête, il s'en va à l'eau. Et là, surprise, deuxième tableau, c'est la baleine, le gros poisson. L'hébreu dit toujours le poisson. Alors le poisson avale Jonas, pendant 3 jours, on sait pas, il ne fait rien d'autre que de prier. Voilà.
Trois jours et trois nuits.
Trois jours, trois nuits. Et c'est la prière de Jonas qui est comme un grand psaume, un très beau psaume d'ailleurs, qui est utilisé dans la liturgie. Prière de demande de délivrance et en même temps prière d'absolu abandon. Enfin, Jonas descend au fond de la mer et est englouti et dans une détresse extrême. C'est la prière du samedi saint. Alors, troisième tableau, il est vomi sur la terre ferme et il s'en va prêcher à Ninive. Ça y est, il obéit. Il entend la parole et il y va. Et il y va, c'est très étonnant, il y va, ça marche tout seul, ça va plus vite que lui. On nous dit qu'il faut 3 jours pour traverser Ninive, mais lui, au bout d'un jour, ça y est, la parole est entendue et les gens se convertissent et le roi fait un décret. Et donc ça, c'est le troisième tableau, la conversion de Ninive.
Et le quatrième,
que Dieu se repent de son affaire. Et c'est-à-dire qu'il est... Il ne châtie pas Ninive, hein. Il s'abstient de toute catastrophe. Et le quatrième tableau, eh bien, c'est le prophète face au Seigneur de nouveau, mais il n'est plus dans la baleine, il est sur la terre ferme. Il voudrait voir la catastrophe de Ninive, il voudrait voir Ninive punie, mais rien n'arrive et il est furieux. Il est furieux, il se met dans une hutte, et puis un ricin pousse, c'est l'épisode du ricin, un peu étrange, hein, comme un grand tournesol qui lui donne de l'ombre. Alors il est très content parce qu'il fait très sec et très chaud, il y a du vent d'est. Et puis, le ricin, la nuit suivante, Dieu envoie un ver qui pique le ricin, et le ricin se dessèche. Alors, et de nouveau, il est furieux.
Alors, David Marc, je propose qu'on donne pas la fin de l'histoire après cette présentation. Vous dites, non sans sourire, enfin ça s'entend dans votre ouvrage, que c'est quand même l'histoire, c'est presque une histoire drôle. Alors c'est un conte de fées, dites-vous, mais presque une histoire drôle, parce que ce Jonas, c'est quand même un drôle de personnage qui fait presque tout à l'envers. Est-ce un passage des Écritures où il y a de l'humour quelque part?
Oui, c'est vrai, l'humour est dans le texte hébreu, hein. Il n'y a pas de souci à ça. 4 siècles avant le Christ, un prophète plein d'humour nous a livré cette figure de Jonas qui est très très proche de nos héros de bande dessinée. C'est un peu Mister Magoo. Enfin, c'est-à-dire Jonas est à côté de la plaque du début à la fin de l'histoire. Hein. C'est Gaston Lagaffe, c'est plein de personnages. C'est le Schtroumpfhaler, c'est celui qui est pas content. Enfin, et ça, c'est une modernité du texte qui a pas pris une ride. C'est très étonnant.
Alors,
en même temps, c'est peut-être un des aspects de l'homme éternel, de l'homme d'aujourd'hui comme de l'homme d'autrefois, c'est de se sentir un minus dans un monde qui le dépasse complètement. Il est dépassé et par son Dieu, et par le monde, et par la tempête. Voilà. Accepter de se regarder soi comme un être dépassé par les événements, c'est peut-être une leçon très salutaire.
On va essayer de voir un petit peu plus ce qu'on peut savoir de Jonas. En tout cas, c'est ce que vous faites dans votre ouvrage. Je vous dis que donc ce livre, en tout cas, c'est le 5e des 12 petits prophètes. Vous pourrez nous dire. Vous vous penchez aussi sur le contexte historique. Vous dites que Ninive a bien existé, qu'elle a été détruite en 612, que l'expression roi de Ninive ne correspond à rien. Qu'est-ce qu'on sait de Jonas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Jonas?
Alors, on peut commencer par dire qu'il se présente, ce Jonas, au début, il se présente en disant « fils d'Amittai ». Et là, c'est pas une allusion à rien. Ce fils d'Amittai, en fait, c'est une allusion au premier livre des rois. Dans le premier livre des rois, à l'époque au 8e siècle, en fait, succédant à Élisée, on trouve un Jonas, fils d'Amittai, qui est un prophète à la cour du roi Jéroboam II. Et c'est le moment où Israël se rengorge par rapport à la Syrie, à Ninive, à son voisin puissant, qu'il a toujours un peu opprimé. Hein. C'est Ninive, la Syrie, c'est l'adversaire. C'est vraiment, pour Israël, une menace permanente. Mais, comme vous le dites, Ninive, on en parle au passé, Ninive était une ville divinement grande, C'est-à-dire que tout le monde, il est convenu dans ce conte que c'est une histoire ancienne qu'on raconte là. Elle n'a pas été écrite à l'époque du prophète Jonas, elle a été écrite vers le 4e siècle, peut-être le 5e, peut-être le 3e, en tout cas pas avant, parce qu'elle est héritière de toute l'histoire de la Bible, elle prend de la distance, elle prend comme un effet de recul par rapport à toute la révélation, qui est très significatif, très impressionnant aussi. C'est quelqu'un qui a du recul, qui prend du recul par rapport à tout ce qu'on lui a raconté. C'est un sage, finalement.
Il y a deux traductions qu'il faut faire. Donc, Jonas, qui en hébreu donc signifie « la colombe », et « fils d'Amittai », aussi, vous donnez une traduction en hébreu, « mes vérités ». Pourquoi est-ce que ces deux précisions sont importantes?
Alors, Jonas, la colombe, parce que la colombe, c'est vraiment une figure d'Israël. Tout au long de la Bible, on trouve ça dans les psaumes, chez Isaïe, chez les prophètes. La colombe, c'est Israël. Et pourquoi c'est Israël? D'une certaine façon, le récit qui nous le raconte, c'est le premier récit où apparaît une colombe, c'est l'histoire de Noé et de l'arche. À savoir que le premier animal à sortir de l'arche pour voir si les eaux avaient baissé, c'est la colombe. Et donc, l'élu, Israël, au milieu des nations, c'est un peuple, comment dire, pionnier, un peuple qui va en avant, qui découvre des choses que tous les autres un jour découvriront, mais il est le premier. Ça, c'est typique de ce qu'on peut appeler l'élection. L'élection en termes bibliques, c'est toujours une exploration qui est dangereuse aussi, hein, qui est aux dépens de l'élu, et c'est bien ce que vit Jonas.
Alors, c'est pour la colombe. Et alors, Amittai, mes vérités, donc
Amittai,
en hébreu.
Amittai, fils de mes vérités. Il y a vraisemblablement un très fort sous-entendu dans ce fils de mes vérités. Parce que, au fond, le prophète Jonas, celui qui écrit le livre, il redresse un peu le catalogue des vérités du judaïsme. Il l'interroge puissamment. Il met en question les vérités, à savoir le caractère un peu schématique, moi je suis l'élu, et puis en face, c'est les nations, les nations, c'est pas les élus, donc c'est les exclus, quoi. Donc on va les faire disparaître de la carte. C'est un petit peu ça que met en question et que retourne complètement l'histoire de Jonas.
Avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pouvez nous dire, David-Marc Damonville, pourquoi tout d'un coup, et j'ai envie de dire, puisque vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage, on vous avait reçu, je crois que c'était au sortir du premier confinement pour une lecture de l'Évangile selon Saint-Marc et une traduction que vous avez faite. Bref, vous êtes familier des Écritures. Pourquoi avez-vous décidé de vous plonger dans ce récit de ce prophète, de ce Minus, comme vous dites?
C'est une histoire très un peu personnelle. On avait eu une retraite à Ocalcat, les moines font des retraites une fois par an avec un prédicateur qui vient leur parler, qui nous avait dit les moines sont des râleurs. Les moines c'est comme ça, c'est des gens qui sont pas contents, c'est des contestataires. On s'est tous reconnus dans cette affaire de moines qui était un râleur, et je me suis dit, dans la Bible, qui est-ce qui râle? Et ça m'est venu de me dire, tiens, il y en a un qui râle tout le temps, c'est Jonas, le prophète râleur. Et du coup, j'ai fait pendant peut-être un mois ou deux, j'en sais rien, un petit commentaire aux frères de l'histoire de Jonas, mais en creusant, en tombant dans le récit, si on peut dire, en se laissant porter par le récit. Et à partir de ça, ça a été l'approfondissement quand j'ai proposé à Chantal Régnier, la directrice de la collection du CERF, de faire un petit livre sur Jonas.
On en est bien content, et puis vous allez peut-être résoudre une énigme aussi pour nous, pour ceux qui sont plus familiers des Écritures, ou en tout cas d'une certaine pratique religieuse. Quand Jésus dit, répond à ceux qui lui demandent un signe, vous n'aurez comme signe que le signe de Jonas. C'est une parole bien mystérieuse, que beaucoup, certainement, comment dire, qui pose question encore à beaucoup. On va faire une première pause musicale, et puis on va vous retrouver pour plonger plus avant dans ce récit, et puis essayer de voir ce qu'il peut nous dire. Je rappelle le titre de votre livre, Jonas, paru aux éditions du CERF dans la collection Mon ABC de la Bible. Sortir du ventre de la baleine, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité David-Marc Damonville, religieux bénédictin, ancien père abbé de l'abbaye d'Ancalca dans le Tarn, et auteur donc d'un ouvrage que l'on parcourt ensemble ce matin, Jonas, paru aux éditions du Cerf dans la collection Mon ABC de la Bible. Jonas, donc pour ceux qui nous rejoindraient, si on en redonne tout, enfin très rapidement, donc le récit c'est donc ce petit livre, donc c'est un livre dans les livres des prophètes, fait, si je ne me trompe pas, donc l'histoire d'un homme qui fuit, on va dire, la volonté de Dieu jusqu'à se retrouver dans le ventre d'une baleine. Et la volonté de Dieu, en l'occurrence, c'est qu'il parcourt Ninive, invitant à la conversion. Alors, vous l'avez dit, que c'est une espèce de Gaston Lagaffe des Écritures. On peut citer quelques passages. Hein, Jonas qui donc fait l'inverse de ce qu'on lui demande et prend un bateau pour l'extrême opposé, pour l'Espagne, qui dort alors que la tempête rugit à l'extérieur, qui parcourt Ninive, en fait on a l'impression un peu comme un automate, et qui à la fin se met sur une montagne pour regarder, on va dire, Dieu détruire cette ville. Quel rôle ça a, ou quelle fonction ça a dans le récit, David-Marc Damonville, d'avoir en fait une forme d'anti-héros?
Je pense que c'est une humanité réconciliée qui nous est donnée là. C'est-à-dire, c'est pas un modèle héroïque, c'est pas un modèle inaccessible, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Et ça permet qu'un récit, une parabole, brusquement, au lieu de nous paraître comme un enseignement moral, se met à dire simplement, mais écoute bien, parce que c'est ta vie, ça. C'est ce que tu vis, toi. Tu es en train de fuir, tu le sais pas, mais tu es en train de fuir. Ou bien tu râles, tu râles, tu râles. Et pourquoi tu râles? Écoute un peu mieux. Alors, pour moi, ça c'est la grande fonction du récit de Jonas, c'est un retournement. C'est-à-dire que on est dans une situation incroyable dont on peut pas se sortir, hein, que le ventre de la baleine, c'est vraiment le signe même d'une solution sans issue. Il n'y a pas de solution. Un petit peu comme la pandémie peut nous rejoindre aujourd'hui en disant, mais on va jamais en sortir, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe, le monde entier est pris et tout ça. Ou bien c'est la fin du monde, c'est Ninive devant la catastrophe inéluctable. Eh bien non, le prophète, le livre et la lecture évangélique nous obligent à nous dire, non, non, attendez, retournez-vous, il y a une solution. Vous n'êtes pas seul déjà, Dieu est là, il vous parle. Et ce à quoi il vous appelle, c'est un retournement vers la vie. C'est pas la mort qui est en face, c'est la vie.
Alors vous insistez sur différents aspects de ce récit, on pourra pas tout dire, hein. Il faudra évidemment parcourir votre livre et l'acheter. La première chose, c'est qu'on dans ce récit, on y voit la grande merveille de la création, dites-vous. Alors même s'il est court, de fait, c'est vrai que la création est partout, de son plus petit aspect, j'ai envie de dire, avec ce ricin. Vous pourrez peut-être dire ce que c'est qu'un ricin, mais aussi...
C'est une plante qui pousse très vite, une plante qui, de fait, le ricin, je crois que le sumac de Virginie, c'est un ricin, et on voit ça dans nos jardins, et ça pousse très vite, ça c'est une tige comme ça qui jaillit comme à toute allure.
Donc du plus fragile au plus majestueux, hein, la mer revient souvent dans l'écriture, on va dire, comme le lieu par excellence de contemplation, soit de la splendeur de la création, mais aussi d'une création qui nous remet à notre place.
Oui, c'est surtout une puissance indomptable. La mer, c'est vraiment l'indomptable. C'est ce avec quoi les pauvres Hébreux ont toujours eu maille à partir, hein, traverser la mer Rouge à pied sec. Ça dit l'essentiel, c'est-à-dire la mer, c'est pas des marins, les Hébreux, c'est pas les Phéniciens, c'est des gens de la terre sèche. Donc la mer, c'est un peu effrayant, et en même temps, dans cette mer, ben, y a des monstres marins, comme ce gros poisson. Mais dans le récit, on voit aussi apparaître tous les animaux. À Ninive, par exemple, ben, les animaux prennent le deuil. Alors ça fait sourire, ça fait rire même, parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils mettent des vêtements de deuil. Il y a eu des illustrations où on voyait des moutons et des ânes avec des des vêtements de pénitents. Donc ça, c'est le côté comique. Mais c'est pas seulement comique, c'est-à-dire que Dieu, le Dieu des Hébreux, le Seigneur, comme il s'appelle, est le créateur de la vie, le créateur des vivants, le créateur de la mer et de la terre sèche. Et donc il y a une grande révérence, Le mot grand, d'ailleurs, revient très souvent. C'est grande merveille, tout ce qui est grand. Ninive était divinement grande. Beaucoup de choses grandes. Mais, au milieu de ce grand, l'homme est perdu.
Alors c'est ce
Jonas
que,
est tout petit.
C'est ce que j'allais dire. Après, l'autre aspect que vous soulignez, c'est que la précarité de la vie, on sent que Jonas, sa vie ne tient qu'à un fil, en l'occurrence, ou un ventre de baleine, mais c'est quand même bien particulier. Ça aussi, c'est important dans ce récit, la précarité de la vie.
Tout à fait. La vie est très très précaire puisque tout le récit est comme un film, vous savez, où du premier au dernier instant, on a l'impression qu'on va y passer. C'est-à-dire les menaces succèdent aux menaces. C'est d'abord la tempête, et puis c'est la baleine, et puis c'est la catastrophe à Ninive, et puis finalement le riz saint, c'est un peu l'image que donne Isaïe. Il dit « Toute chair est comme l'herbe, hein. Le matin elle fleurit et pousse, et le soir elle flétrit et sèche. » Ben voilà. La mort est là, comme une espèce de menace tout le temps présente dans la vie humaine.
Alors vous dites que ce récit donc est aussi comme un écrit de sagesse. Alors si on doit se plonger dans cet écrit de sagesse, c'est ce que vous faites dans un de vos chapitres, intitulé « Enjeux spirituels ». Si on doit faire une lecture donc de cet écrit de sagesse, y compris peut-être essayer de faire un parallèle avec nos vies et la situation actuelle, la première clé, vous donnez plusieurs clés, des clés d'or, dites-vous. Il y en a trois. La première, c'est la désillusion. Pourquoi ?
Désillusion, parce que on tombe de haut, finalement. On tombe de haut quant à la puissance humaine, déjà. Hein. L'homme n'est pas tout puissant. Il est dérisoire au regard des planètes. On le sait bien, maintenant qu'on a parcouru les espaces intersidéraux, qu'est-ce que c'est que la planète Terre ? Ouh là là, c'est minuscule, quelque part dans une galaxie perdue, dans un coin de l'univers. Enfin, c'est un grain de poussière. Alors, sur cette planète, encore plus dérisoire, les vivants qui s'y promènent. Donc, on peut dire que c'est la remise en place de Copernic, mais 15 siècles ou 20 siècles avant, c'est-à-dire que on n'est rien du tout à la surface de cette Terre. La moindre tempête nous fait couler à pic. Et sur la Terre même, il y a aussi des menaces. Il y a des menaces qui sont là et la pandémie en est une. Bon, des illusions, on se croyait les maîtres, on n'est pas les maîtres.
Alors
on est au milieu d'une création qui nous dépasse de très haut, de très loin.
Vous faites un parallèle donc à propos de Jonas en disant que ce récit parle aussi donc du peuple élu, vous en parliez tout à l'heure, un peuple élu qui est en prise avec un voisin, la Syrie, qui est, on va dire, le dominant et le puissant. Expliquez-nous un petit peu plus précisément comment des Juifs, par exemple, peuvent lire ce passage.
Alors, c'est peut-être la désillusion qui concerne l'élection elle-même, alors qui, pour nous, transposons. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien ? Un bon chrétien, il est urgent qu'il soit père de ses illusions, à savoir qu'il n'est juste que dans la mesure où il va être capable d'aller frapper à la porte de son voisin, l'Assyrien. On dit la Syrie, mais c'est avec un A-S-A-2-S-Y-R-I-E. C'est l'ancien pays qui a précédé la Syrie, qui est plutôt à l'endroit où est actuellement l'Irak. Ninive, c'est Mossoul. Donc c'est l'Irak actuel. Et ce voisin, l'Assyrien, c'est l'ennemi par excellence, donc c'est pas l'élu. Eh bien, l'élu, puisque c'est à lui que s'adresse le récit, l'élu, c'est celui qui va être capable d'aller voir ce voisin en lui disant « Tu agis mal. » Au nom de Dieu, il lui fait cet avertissement. C'est ça la mission du prophète. Mais pour autant, il n'y a pas de catastrophe. L'élu se transforme parce que la parole est agissante. Alors ça, c'est une autre merveille du récit de Jonas. C'est montrer comment la parole de Dieu finalement agit. Et puis, c'est un Dieu mystérieux puisque comme il ne détruit pas Ninive, finalement, on a l'impression que sa parole, elle a été envoyée pour rien. Jonas y est allé pour rien, Ninive. C'est ce que disent d'ailleurs certains commentaires. C'est que Jonas, il savait très bien que Dieu ne ferait rien, donc il n'avait pas du tout envie de passer pour un faux prophète.
Alors, on
il prédit à Ninive qu'elle va être détruite et puis qu'il ne se passe rien. Quel est son rôle ? Quelle tête il a ?
On va y venir. À propos de la parole, justement, vous commencez presque par ça. On peut peut-être faire une digression dans votre livre. Vous dites « La parole du Seigneur, premier acteur », c'est dans le fond ce que montre ce court passage des Écritures, c'est-à-dire
Alors, premier acteur, c'est le premier verset. La parole du Seigneur fut à Jonas. Voilà, c'est bien la parole du Seigneur qui est celui qui rentre en scène, l'acteur premier de tout. C'est ce qui déclenche finalement toute l'histoire. Il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas cette parole du Seigneur au départ. Mais la parole, ce n'est pas seulement la parole du Seigneur comme nous l'entendons, c'est-à-dire une espèce de parole qui arrive là, pim-poum, du ciel, de très loin, très, très, très extérieure. Non, cette parole va par exemple être agissante sur le bateau, simplement parce que, à travers la parole des hommes, la parole de Jonas, la parole du capitaine, la parole des marins, c'est-à-dire que la parole humaine est créatrice, comme la parole de Dieu. La parole, c'est pas seulement un outil, c'est l'être humain qui est engagé dans la parole. Et quand il parle, eh bien, il s'aperçoit qu'il transforme le monde. On le sait bien. Toutes les sciences aujourd'hui, la biologie, l'archéologie, l'ethnologie, toutes ces logies, c'est des paroles, logos, la logie, la science. Alors ça, c'est le caractère transformant de la parole, mais il faut aller plus loin. Ça veut dire que la moindre de nos paroles est à prendre très très au sérieux. Dans nos relations, la parole, c'est l'essentiel de nos relations, c'est ce qui les bâtit et ce qui les détruit. Donc ça, c'est un enjeu que peut-être les chrétiens laissent un peu à distance, finalement, on prend au sérieux la parole de Dieu comme si c'était un livre, mais qu'on laisse fermer sur le coin de la table, et on oublie que c'est en quelque sorte la clé, la caisse de résonance de notre propre parole.
Alors, première clé, donc, c'est la désillusion. Deuxième clé, vous dites, c'est la révélation. Et la troisième, petite clé d'or, l'ouverture. La révélation, ce qu'on en lit, c'est qu'en fait, Jonas, dans ce récit, et peut-être est-ce le cas de certains d'entre nous à l'occasion de la pandémie actuelle, découvre un Dieu qui n'est pas celui qu'il pensait.
Exactement, exactement. Dieu se révèle autre et il se révèle comme un Dieu de miséricorde et un Dieu foncièrement pour la vie. Alors que c'est Jonas qui demande la mort. Ça, c'est le plus étonnant du récit, c'est quatrième scène, quatrième tableau avec le riz saint. Jonas est tellement dégoûté que de ne pas avoir été entendu, ou je ne sais pas quoi, enfin en tout cas, il voulait le châtiment de Ninive, mais Ninive a été épargnée. Du coup, il est tellement furieux qu'il demande la mort à deux reprises. Et là, le Seigneur Dieu ne cale pas et lui dit « Mais est-ce que tu as raison vraiment de te fâcher ?» Non, non, c'est pas du tout ça. Moi, je suis là pour la vie.
On peut citer le passage. Jonas dit la chose suivante. « Je savais en effet que tu étais un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. » C'est quand même un comble, en fait. Il est sur la hauteur, il attend le spectacle, j'allais dire en 16-9e, et en fait, il est déçu.
Eh bien oui, c'est ça. Il confesse, il fait une confession qui est très orthodoxe, parce que ce verset « Tu es un Dieu de tendresse et de pitié », c'est un verset des psaumes, avec des parallèles dans l'Exode et dans le Deutéronome. Enfin, donc, c'est vraiment le cœur de la révélation du Dieu de la première alliance, Dieu qui fait miséricorde, qui est bon, qui est tendre, qui aime, et qui se repent du mal, c'est-à-dire qu'il ne veut pas le mal. Et malgré tout, il est déçu. Parce que il y a un abîme, je dirais, existentiel dans le cœur de l'homme, c'est que son désir de, je sais pas, de son égoïsme peut-être, fait qu'il veut, il voudrait bien le bonheur pour lui, mais il veut surtout le châtiment des méchants. Et les méchants, c'est tous ceux qui lui ressemblent pas, c'est les autres, c'est ceux qui voient différemment le monde. Et ça, c'est très difficile de faire évoluer en soi la représentation qu'on a de ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est juste, ce qui est injuste.
On y reviendra peut-être. Dernière petite clé d'or, c'est l'ouverture. Peut-être cela rejoint-il le titre de l'émission, Sortir du ventre du poisson. Et puis le parallèle que vous faisiez avec le monastère. Qu'est-ce à dire ? Quelle est cette dernière petite clé d'or ?
Alors, cette ouverture, c'est que au fond du ventre du poisson, dans la situation la plus désespérée qui soit, Jonas n'est pas tout seul. On entend sa prière, on entend ce psaume magnifique qu'il adresse au Seigneur, et lui-même dit « Le Seigneur m'entend. J'ai crié et j'ai été entendu. » Et donc, dans la situation la plus isolée qui soit, la prière est une ouverture transcendante, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de prière, donc, mais réelle et agissante, puisque Jonas va être sauvé du ventre de la baleine. Donc la prière est formidable, qu'un moine qui n'y croirait pas, d'ailleurs on se demande ce qu'il ferait dans un monastère, donc c'est pas très original de ma part de parler de la prière, mais nous sommes pas au monastère comme dans le... Enfin, nous sommes peut-être comme dans le ventre de la baleine, c'est tout. C'est-à-dire croyant que la prière peut des choses que nous ne voyons pas à vue humaine.
Alors justement, je finirai par ça, avant qu'on fasse une deuxième pause, par filer un tout petit peu plus la métaphore que vous faites donc de la vie monastique et du ventre du gros poisson, comme vous le dites dans votre livre, parce que en ces temps, on va dire, difficiles, probablement que nombre d'hommes, et chacun parfois dans sa langue ou selon son dieu, hein, comme ces marins pris dans cette tempête qui se tournent chacun vers leur dieu, peut se poser des questions, peut crier vers Dieu, peut s'interroger justement sur qui est Dieu, et se demander en fait s'il y a quelqu'un, si ça sert à quelque chose quelque part de s'adresser à lui ou de prier. Qu'est-ce que vous diriez au regard de votre expérience? Il faut avoir été longtemps dans le ventre d'une baleine comme celle d'un monastère pour croire à la prière?
Non, je crois que la prière elle-même, elle est un don aussi. Hein. C'est comme la foi. Ce ne sont pas des choses qu'on... Ce sont des choses qu'on découvre. Quand on les reçoit, elles nous sont données. Il n'y a pas un travail très volontaire à faire. Mais c'est vrai que c'est les emmerdements de la vie qui nous amènent à brusquement faire ces découvertes-là. S'il n'y avait pas d'adversité, la tentation serait celle de la surface, d'être toujours à la surface des choses. Et c'est vraiment l'adversité qui dans nos vies personnelles, individuelles, singulières, toutes différentes les unes des autres, et ce sont ces adversités qui nous obligent à aller plus profond. Finalement, quand on dit qu'il descend au cœur de la, dans le ventre de la baleine, c'est cette image de la profondeur de la vie. C'est-à-dire de nous poser de vraies questions. Aujourd'hui, c'est la pandémie qui nous fait dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas fait pour la relation, mais si, on est fait pour la relation, et le fait de ne pas pouvoir, comme ça, profiter de ces relations, c'est une injustice, c'est incroyable. Oui, mais alors, quelle relation? Ça nous oblige à creuser. Mais quelle est la relation qui est bonne, celle qui fait vivre? Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de notre vie de relationnel qui est décevante, trompeuse ou bien superficielle et qui peut être un peu transformée, un peu convertie?
Jonas, c'est donc le titre de votre livre et que l'on parcourt ce matin paru aux éditions du Cerf dans la collection Mon ABC de la Bible. On fait une deuxième pause et puis on va continuer à plonger encore plus profond dans ce texte et dans le ventre de la baleine. Thank you.
Radioprésence à Saint-Gaudens, 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du ventre de la baleine, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin avec David-Marc Damonville, religieux bénédictin, auteur d'un ouvrage paru aux éditions du Cerf, Jonas. Jonas, c'est donc ce prophète, petit prophète, dans les Écritures, et ce court passage des Écritures que l'on parcourt ce matin avec vous en essayant de voir ce qu'il peut nous dire, y compris dans la situation actuelle. Vous avez un autre chapitre qui s'intitule « De l'élection à l'exclusion ». Je vous propose de le parcourir ensemble ce matin pour continuer à creuser. La première chose que vous faites, en tout cas c'est ce que j'ai lu, première remarque, c'est que vous dites dans le fond il y a deux interlocuteurs qui se font face, et ce sont les deux seuls à être nommés, et ce n'est pas sans importance, c'est le Seigneur et c'est Jonas. Ce face-à-face, quelque part, c'est celui auquel chacun un jour sera amené à faire face, justement.
Oui, je pense que c'est une des dimensions qui marque l'intériorité humaine, c'est-à-dire que dedans, on a en soi, on a une dimension relationnelle, on a nos familles, on a nos communautés, nos relations, comme on dit, mais il y a cette dimension de solitude forte où on est face à le Seigneur, enfin Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Cette question même, elle nous habite tous, et si on n'y répond pas, on n'est pas encore tout à fait pleinement humain. Quoi. La dimension de solitude demande à être prise très au sérieux, parce que l'intériorité humaine, c'est pas rien, on n'est pas des animaux. Il y a en nous un gouffre, il y a du désir, il y a du manque, il y a un appel à ce qu'une transcendance nous soit possible. Et c'est ça que dit un peu le récit en nous disant qu'il n'y a que deux personnages qui ont un nom, c'est moi et Dieu, tu et moi. Alors c'est un peu parano, mais parce que l'homme est d'abord un peu parano avant de grandir.
Parano, ça veut dire ? C'est-à-dire ?
Parano au sens, ça donne un volume, un espace immense à ce moi en face de la réalité du monde qui est que le moi, il est misérable et inexistant. Donc c'est le divorce qui fait que c'est un peu une paranoïa. C'est le fait que je me crois finalement très important, parce que si je suis pas là, tout mon intérêt pour le monde s'évanouit tout seul.
En tout cas, ce qui est très beau dans ce récit, c'est que c'est l'histoire, on a l'impression, d'une conversation entre Jonas et Dieu au cœur d'événements qui sont, alors là, extraordinaires, parce que ça ressemble un peu à un film, et qui peuvent être aussi les événements de la vie. Le deuxième point sur lequel vous insistez, sur lequel on ne s'est pas arrêté pour l'instant, c'est le sacrifice de l'élu. Parce que donc il y a un passage dans le livre de Jonas, c'est qu'au cœur de la tempête, le capitaine descend et trouve Jonas en train de dormir au fond du bateau. Il lui dit « Mais que fais-tu ? Tu n'as qu'à prier comme nous, parce que nous sommes, on va dire, au bord du désespoir. La tempête est vraiment, semble-t-il, terrible. » Et ils sont tirés au sort. Je laisserai peut-être un petit peu détailler. Toujours est-il qu'ils finissent par découvrir pourquoi Jonas a fui. Et Jonas se retrouve donc sacrifié, ou décide même lui-même de se sacrifier à ce qu'on le jette par-dessus bord. Cette notion de sacrifice, c'est en fait au cœur de ce livre. Redites-nous son importance.
Alors, importance parce qu'elle est comme la concrétisation de la prière. Le thème de la prière est très présent dans l'histoire. Les païens, les marins pêcheurs, les marins qui ont pris Jonas sur leur bateau, le premier réflexe dans la tempête, c'est ils crient chacun vers son Dieu. Donc ils se mettent à prier, et quand le capitaine réveille Jonas, c'est pour lui dire « Mais prie-toi, prie ton Dieu, qu'est-ce que tu es là à dormir ?» Donc, du coup, la révélation de ce Dieu différent qui est celui de Jonas, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, apparaît. Tiens, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Enfin, c'est une espèce de singularité, et les marins se mettent à prier ce Dieu-là. Au milieu du panthéon des autres dieux, ils se mettent à prier ce dieu-là, et puis l'histoire apparaît, c'est à cause de ce dieu-là qu'il y a eu cette tempête, alors parce que tu fuis ton dieu, tu es parti à l'envers, tu es parti à Tarsis alors que tu t'envoyais à Ninive. Alors Jonas dit oui, voilà, c'est vrai, c'est à cause de moi, jetez-moi à la mer, et la mer va se calmer. Et c'est ce qu'ils font. Et le sacrifice, ce qui est frappant, c'est que C'est pas les marins qui se débarrassent de Jonas. Hein. Ils sont pleins de scrupules, ils essayent de ramer, ils essayent d'éviter. Mais c'est Jonas qui dit non, il n'y aura pas d'autre solution, allez-y. Et donc, quelque part, il se met lui-même dans les mains de son Dieu, sans savoir trop ce qui va se passer. Et puis, il y a le poisson.
Alors, est-ce à dire, Marc Damonville, que c'est là qu'il faut comprendre donc, la parole de Jésus, qui dans les évangiles, quand on lui demande des signes, dit dans le fond, il ne vous sera donné que le signe de Jonas.
Alors, je pense que ça joue la relecture chrétienne, la relecture par le Christ de l'histoire de Jonas, elle joue à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr les 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas dans la baleine, donc mort et résurrection. Ça, c'est le niveau que l'évangile explicite. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau de la prédication, qui est aussi explicite dans l'évangile, c'est-à-dire que il y a eu la prédication, apparemment il y a eu une petite prédication qui n'a pas duré longtemps, c'est celle de Jonas sur le bateau avec des marins pêcheurs autour. Ben, c'est un peu Jésus avec ses disciples en Galilée, c'est-à-dire pendant 3 ans, ben, c'est misérable, dans un tout petit pays, Jésus fait une petite mission. Et puis il y a le deuxième temps de la prédication. Alors c'est Ninive, où brusquement toute la ville se convertit à toute allure, et c'est ce qu'on peut appeler la prédication des premiers siècles du christianisme, où on voit brusquement cette parole se répandre comme une traînée de poudre. C'est ce que racontent les actes des apôtres après la Pentecôte. Brusquement, elle est 3000, 5000, enfin, on voit que ça va... Alors on comprend pas, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas la même histoire.
Alors
un prophète.
Et entre les deux, David Marc Damonville, pour ce qui est du sacrifice et de l'élu.
Et bien, entre les deux, il y a eu la mort de Jésus-Christ, oui. Il y a eu cette descente aux enfers et cette résurrection qui fait que le corps du Christ a pris le relais, l'Église. A vu le jour et une nouvelle prédication est née. Donc ça, c'est un deuxième niveau de la lecture de l'histoire. Hein. Mais le sacrifice, il est réel. C'est bien celui du Christ, mort et ressuscité, qui a accepté d'être tenu pour rien, comme Jonas, prophète méprisable, considéré comme n'importe quoi, une caricature de prophète, négligeable dans l'histoire sainte, finalement. Eh ben, Jésus, c'est le signe qu'il choisit. Parce que son existence humaine, si rapide, si courte, en Galilée, dans un petit pays, une catastrophe, une affaire qui tourne mal, il meurt sur la croix. Au vu de ses disciples, il y a vraiment, c'est tout à fait comme Jonas, quoi. C'est le fiasco total.
Alors,
on passe du fiasco à une réussite étonnante.
Vous insistez aussi dans ce chapitre donc sur le Dieu méconnu, ça on s'y arrêtait. Et après vous parlez de Jonas et on va dire du mouvement que Dieu l'invite à faire, non seulement on va dire quant à lui, c'est-à-dire quant à Dieu, où Jonas, comme on l'a dit, découvre un Dieu qui n'est pas celui qu'il imaginait, celui qu'il espérait, celui auquel il croyait, mais aussi un examen de conscience très fort. Vous intitulez ça Caïn dépité, le frère exclu. Vous laissez entendre que voilà qu'on peut aussi se retrouver dans cette jalousie presque meurtrière de Caïn et là qui est celle presque de Jonas.
Tout à fait. Il y a une petite phrase là qui est une clé bibliquement. L'auteur de Jonas c'est tout à fait ce qu'il fait. C'est est-ce que tu as bien raison de te fâcher? C'est la question que Dieu pose à Jonas tout à la fin quand son riz saint tourne la tête ou quand Ninive n'est pas détruite. Est-ce que tu as bien raison de te fâcher? Littéralement, est-ce qu'il est bon que tu t'enflammes ainsi? Et ça, c'est une phrase qui est dans la Genèse, dans l'histoire de Caïn. Pourquoi Caïn s'est fâché? Oui, effectivement, parce que le sacrifice d'Abel a été reçu. Parce que, voilà, un autre a été exaucé. Un autre que lui a été exaucé. Ninive s'est converti et son sacrifice, son repentir, ses sacrifices, puisque c'est plutôt au pluriel, le culte qu'il a, les prières qu'il a envoyées vers le Seigneur ont été entendues, ont été exaucées, et Ninive n'a pas été détruite. Et donc, ce qui est questionné là, c'est que Jonas est comme un nouveau Caïn. à regarder avec jalousie ce que les autres ont fait qui leur a valu la clémence de Dieu. Et là, Dieu l'interroge Caïn en lui disant, est-ce que tu as bien raison de vouloir la mort? Et Jonas répond, oui, j'ai bien raison, il est bon pour moi d'être fâché à mort. C'est-à-dire qu'il s'enferre dans son dépit. Il n'a plus envie de vivre. La jalousie s'est retournée contre lui. Il est devenu suicidaire. Bon, il ne pouvait pas exterminer lui-même Ninive. Dieu ne l'a pas fait. Donc sa méchanceté, sa haine, sa jalousie s'est retournée contre lui. Et là, on voit que l'élu est toujours dans le risque de devenir lui-même l'exclu, de s'exclure lui-même du monde de la bénédiction, du monde de la miséricorde, du monde de la clémence de Dieu.
David-Marc d'Amonville, me vient une dernière question en cette fin d'émission, peut-être un petit peu osée, mais un certain nombre de... Enfin, ce sont des choses qu'on entend, et puis peut-être un certain nombre d'entre nous, à un moment, c'est une idée qui leur est passée par la tête. On peut se dire aussi que ce qui nous arrive, en tout cas certains se le disent, donc je me permets de poser la question un peu abrupte, que ce qui nous arriverait, ce serait un châtiment divin. Est-ce là, justement, être un peu comme Jonas, en haut de sa montagne, à attendre de voir Ninive être détruite?
Oui, je pense que le récit de Jonas est une antidote parfaite à ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que y a le châtiment divin, non. Que ce soit une interrogation qui nous est lancée, c'est-à-dire que notre parole est en jeu, il va falloir réfléchir, il faut s'y mettre à plusieurs, et il faut surtout dialoguer, ça sûrement. Mais châtiment divin, non. Si nous prenons des décisions salutaires, voilà, Dieu se retournera dans le silence. Dieu est d'une discrétion infinie. C'est ça qui est merveilleux dans l'histoire de Jonas, c'est que on voit bien que c'est un Dieu discret. C'est un Dieu qui se sert des hommes et qui envoie son esprit, sa roue, son souffle à travers des hommes, des pauvres, pas les grands héros, pas les grandes gueules, non, non, des petits Jonas comme ça, qui sont envoyés et qui sèment la parole et qui finissent par obtenir la clémence de Dieu. C'est pas des œuvres de puissance. Jonas est tout entier une parabole, parce que ça ressemble beaucoup aux paraboles du Christ, une parabole qui nous dit que c'est dans les petites choses que se trouvent les vraies clés, et que le grand nous aveugle. Le grand nous aveugle des grandes ambitions comme les grandes catastrophes. Tout ça, on le voit bien dans le récit de Jonas. La réalité est petite. Elle demande qu'on baisse la tête pour la voir, pour la ramasser, pour la traiter. Il faut commencer par ses proches, il faut commencer par ceux qui sont autour de nous avant de vouloir solutionner la vie du monde, sûrement.
Eh ben merci David-Marc d'Amonville. Je rappelle le titre de votre livre, Jonas, paru aux éditions du Cerf, dans la collection Mon ABC de la Bible. Un grand merci à vous.
Merci.
Cette émission était réalisée par Jonathan. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.